Vous êtes sur RTL.
RTL dimanche soir avec vous, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Peggy, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL dimanche soir jusqu'à 19h15, l'heure à laquelle vous referez le sport avec Isabelle Langer. À la une ce soir, des bleus plein les yeux, un lendemain de fête et une affiche de rêve pour la demi-finale du Mondial mercredi, à laquelle assistera Emmanuel Macron, France-Maroc. Sacré dilemme, voire crève-cœur pour des dizaines de milliers de Marocains de France, de Franco-Marocains ou de Français d'origine marocaine. On va les entendre. Hein. Nous irons bien sûr à Doha prendre les dernières nouvelles des joueurs de l'équipe de France et de Didier Deschamps qui a désormais son destin en main. Il pourra rester à la tête des Bleus s'il le souhaite. Une question avant ce France-Maroc de mercredi. Quels sont les risques de dérapage et de violence dans les rues après le match hier soir, après les qualifications des deux pays? Des incidents, 170 interpellations, une cinquantaine de policiers légèrement blessé. Vous entendrez le porte-parole du gouvernement, il n'est pas trop inquiet, Olivier Véran, qui était l'invité du grand jury. Il a surtout été question des retraites, on reviendra largement sur ses propos à 18h30 dans le MacPol. Et Yvan Ricardo, le secrétaire national de la CFDT, chargé du dossier retraite, sera notre invité. Dans le MacPol également, le nouveau patron des Républicains, Éric Ciotti ou Bruno Retailleau. Le scrutin vient de se clore, on vous donne le résultat dès qu'il tombe et donc on y reviendra dans une demi-heure. Dans l'actualité de ce dimanche soir, le Qatar toujours, mais cette fois en mode suspect. Dans une grosse affaire de corruption politique qui éclabousse le Parlement européen à Bruxelles, la vice-présidente grecque Eva Kaili est ce soir en prison. 600 000 euros en liquide ont été retrouvés chez elle. Trois autres personnes liées à l'Europarlement sont également sous les verrous dans cette enquête sur d'importants versements du Qatar afin d'influencer des décisions de l'Union européenne. À la une également, le retour d'Orion, la capsule de la NASA, sans humain à bord cette fois, mais elle doit servir pour les prochaines missions lunaires qui doivent atterrir à 18h40 dans l'océan Pacifique. Principale question, le bouclier thermique va-t-il résister à l'entrée dans l'atmosphère? Le début aujourd'hui du premier RER hors Île-de-France est à Strasbourg. Le REM, le réseau express métropolitain européen. Ces trains ont commencé à circuler à un rythme soutenu. 2 à 3 plus de trains par exemple pour ce dimanche. Le quintet de Vincennes, 12, 5, 15, 7 et 14. Et puis le temps, bonsoir Claire Delorme.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Dites-moi, il va faire toujours aussi froid demain?
Ah oui, exactement. C'est un vrai pic de froid qu'on a eu aujourd'hui. Par exemple, jusqu'à moins 11 degrés en dessous des normales de saison, que ce soit en direction de la Bourgogne, c'était le cas à Nevers. Et donc des gelées qui seront à nouveau généralisées en matinée sur l'ensemble du pays, compris entre moins 6 degrés et 0, voire moins 9 degrés sur la façade est du pays. Quant à l'après-midi, le thermomètre aura encore beaucoup de peine à décoller dans l'est du pays. Ça se traduira par moins 1 à 2 degrés, 2 à 6 degrés ailleurs. Et puis la Méditerranée, quant à elle, restera avec des valeurs positives. Côté ciel, en revanche, nous aurons encore de la neige en matinée aux abords de la Normandie et des Hauts-de-France, ainsi qu'en direction des régions centrales. Bon, le reste de la moitié nord restera encore bien grise, avec de nombreux bancs de brumes et brouillards givrants. Mais après leur dissipation, ce sera beaucoup plus lumineux. Le ciel restera très lumineux, en tout cas en direction du sud-est et de la Corse. En revanche, ça va très rapidement se dégrader par le sud-ouest avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Elle occasionnera de la pluie, mais aussi de la neige à basse altitude. Et donc cette neige, elle pourrait gagner en fin de soirée, début nuit, justement la vallée du Rhône ainsi que le sud-est.
Voilà, on est prévenu pour la neige demain et pour la suite de la semaine.
Ça restera encore assez perturbé. Nous sommes en plein conflit de masse d'air qui occasionnera à nouveau donc des pluies, mais aussi de la neige. Une situation que l'on surveillera. Ce qui est sûr, c'est qu'en fin de semaine, à partir de jeudi, vendredi, l'anticyclone l'emportera pour un ciel beaucoup plus lumineux, mais aussi peut-être encore plus froid.
Merci Claire.
RTL dimanche soir avec Vincent Parisot.
La France donc sur un petit nuage bleu, mais avec le bonnet, l'écharpe et les gants, des températures négatives. Alors certes pas exceptionnelles en hiver, mais tout de même, ça piquait ce matin à l'heure du marché du dimanche, comme à Lyon, au marché Saint-Joseph, Bertrand Frachon.
Avec moins 3 degrés ce matin sur les quais de Saône, les clients du marché ont bien du mal à se réchauffer, mais pas question de manquer ce rendez-vous.
Ça caille plutôt, oui. Mais il suffit de se courir et puis on prend l'air, ça fait du bien quand même.
Vous êtes équipé, vous avez même mis la chapka sur la tête.
Tout à fait, c'est ça, oui. De toute façon, le produit frais l'emporte sur le froid. C'est ça le truc. Donc moi je connais tous les producteurs ici, je viens depuis 10 ans. Donc le froid, je m'en fous, je veux bien manger.
Côté commerçant, pas facile de rester planté derrière le stand.
On n'a pas besoin de frigo, mais enfin nous on est conservés aussi, hein, parce qu'on n'a pas très chaud. Mais c'est quand même agréable. En plus on fait quelques huîtres et moules gratinées, donc ça permet aussi aux gens de se réchauffer un petit peu.
Ça va, on a juste froid au bout des doigts forcément, puisqu'on enlève les gants. Après les grosses vestes de ski, les bonnes chaussures et ça va.
Et puis vous êtes équipé de petits chauffages au gaz, là je vois sur le stand.
Oui, ouais, c'est ça, c'est des réchauds. Comme ça, ça maintient les... Ça évite de geler les fruits et comme ça, nous aussi, on peut chauffer les doigts quand on a le temps.
Même avec ces températures négatives, le marché Saint-Antoine reste incontournable, surtout à l'approche des fêtes.
Bertrand Frachon à Lyon pour RTL. Le marché dans le froid avant Noël, donc, mais aussi avant la soirée de mercredi. Il y aura peut-être encore un plateau radio-télé à prévoir avec, pourquoi pas, des spécialités marocaines au menu. En tout cas, hier, pour Angleterre-France, 17 700 000 personnes ont regardé le match sur TF1, la meilleure audience de l'année pour la chaîne. Le compte à rebours pour cette demi-finale France-Maroc a donc déjà commencé. On est à J-3, alors filons au Qatar. Bonsoir Nicolas Georgerot.
Bonsoir.
Alors dites-nous, comment vont nos Bleus ?
Ils vont bien, ils vont bien. Le retour à l'hôtel a été festif dans la nuit. Les Bleus ont été accueillis par tout le personnel comme d'habitude. Griezmann qui danse dans le hall, Giroud qui limite, les titulaires, les remplaçants, tout le monde bras dessus, bras dessous. Le sommeil a été long à trouver avec l'adrénaline. Pas grand monde au petit déjeuner, nous disait-on tout à l'heure. Aucun rendez-vous avec la presse aujourd'hui pour la deuxième fois dans cette Coupe du Monde. Et il y a eu un léger décrassage pour les remplaçants. Sinon, tout le monde en soin, au massage pour évacuer la fatigue.
Et d'ici mercredi soir, Nicolas, quel sera le programme ?
Alors dès demain, immersion dans le jeu marocain, la cellule vidéo s'est déjà mise au travail dès hier soir et cette nuit pour décortiquer des séquences de la sélection emmenée par Walid Regragui. Ça c'est principalement le travail de l'encadrement. Pour les joueurs, le maître mot c'est récupération, faire souffler les organismes. On a vu hier soir par moments, c'était dur pour les Bleus de soutenir le rythme imprimé par les Anglais. Giroud, Griezmann et d'autres étaient dans l'espace balnéo de l'hôtel en fin de matinée par exemple pour récupérer au mieux. Il y aura deux entraînements, demain et mardi, essentiellement à huis clos. Ça va aller très vite. Fini les six jours entre le huitième et le quart de finale. Les Bleus doivent se replonger, se concentrer rapidement dans cette demi-finale.
Et oui, parce que ça va vite venir. D'ailleurs, tiens, je vous cite ce message. Allez les gars, encore deux matchs, on y est presque, derrière vous. Et ce message, il est signé du Ballon d'Or, Karim Benzema, qui, vous le savez, blessé, a dû quitter l'équipe de France et n'avait pu participer à cette Coupe du Monde. C'est vrai, c'est le dernier carré. C'était l'objectif fixé à Didier Deschamps, hein, ce dernier carré, Nicolas Georgerot. Ça veut dire que le sélectionneur est maintenant maître de son destin ?
Oui, son futur à la tête des Bleus lui appartient. Feuille de route fédérale remplie. Il a évoqué brièvement la situation après la rencontre.
J'ai la main alors, mais je déciderai quoi. Mais je sais tout déjà, bien à l'avance. C'est pour ça que... Non, je rigole. Non, chaque chose en son temps, c'est très bien. Je veux savourer ce qu'on vient de faire en pensant à mercredi. Et je pense pas à d'autres choses.
Plusieurs paramètres entrent en compte, l'issue finale, la volonté de remporter l'Euro en 2024 aussi, pourquoi pas, qu'il n'a jamais gagné comme sélectionneur, l'avenir aussi du président Noël Le Graët. Il ne faut pas attendre évidemment des décisions avant le terme de la compétition.
Merci Nicolas Georgerot, l'un des envoyés spéciaux d'RTL qui vous fait vivre avec Philippe Sansfourche et Mourad Djabari, entre autres, ce parcours exceptionnel de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Donc mercredi soir, 20h France-Maroc, une demi-finale à la saveur toute particulière pour tous les Marocains d'origine, les Franco-Marocains, avec ce cruel dilemme, qui supporter ? Ce sera un peu comme si mon père jouait contre ma mère, a confié Jamel Debbouze. Quant à Gad Elmaleh, eh bien, il explique que lorsque le Maroc joue, eh bien, ce sont les racines qui parlent, la fierté de voir des compatriotes hisser le drapeau du pays. Ce sera donc le Maroc pour lui, mais il souligne que ce sera, comme pour des milliers de personnes, un véritable crève-cœur. Alors France-Maroc, quand il faut bien choisir un camp, un reportage à la Goutte d'Or à Paris, signé Pierre Collat.
Ah oui, Saoued est encore aux couleurs du Maroc aujourd'hui, sur un nuage depuis hier soir.
Jusqu'à maintenant, je suis contente, c'est pour ça que je porte le bonnet. Hein.
Elle est prête pour la demi-finale sans aucun doute sur le résultat.
Contre la France, bien sûr, on va gagner. On va gagner 1-0. D'accord, et on va passer pour le final.
Dans un bar décoré des drapeaux marocains et français, Slimane reste abasourdi plus de 24 heures après la fin du match.
On n'y croyait pas. Et là, vraiment, j'y crois même pas encore. Je suis toujours sous le choc, je suis ému.
Mercredi soir, ce sera maillot bleu ou maillot rouge ?
Ce sera maillot rouge. Ce sera maillot rouge. Parce que la France, elle a déjà deux Coupes du Monde. Nous, on est derrière le Maroc. Si la France gagne, on sera derrière la France. Mais je préfère que le Maroc gagne.
Et quel que soit le résultat mercredi, les supporters français et marocains du quartier comptent bien suivre le mondial jusqu'à la finale dimanche prochain.
Un reportage signé Pierre Collat. En marge de la fête, il y a eu des incidents hier soir après les deux qualifications donc du Maroc et de la France en demi-finale. Au moins 170 interpellations en France, dont 100 à Paris, dans la capitale, 80 gardes à vue, dont 23 mineurs. Au total, à Paris et dans les grandes villes, une cinquantaine de policiers ont été légèrement blessés. Alors faut-il s'inquiéter pour mercredi soir? Écoutez la réponse du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Il était l'invité à la mi-journée du grand jury RTL Le Figaro LCI.
On a envie d'en faire une fête. Et on a envie de se dire que des événements sportifs peuvent être des moments festifs, des moments de réunion, de communion. Quel que soit le gagnant, ce sera de toute façon un très beau match. On ne doit pas être en permanence dans l'anticipation de débordements. Par contre, on doit être dans l'anticipation de l'organisation des forces de sécurité pour éviter qu'il y ait des débordements. Et ça, c'est la mission à laquelle s'attelle le préfet de Paris sous l'égide du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et je sais qu'ils sont parfaitement à la tâche. Ils savent que ce sont des événements qui peuvent poser des conditions un peu risquées. Mais encore une fois, les choses se déroulent pour l'instant très bien depuis le début de la compétition.
Voilà, le porte-parole du gouvernement, pas vraiment inquiet, vous l'avez entendu, Olivier Véran, invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Il a été essentiellement question de la réforme des retraites dans ce grand jury. Et on y reviendra largement dans le MacPol à 18h30. En attendant, il est 18h10, on marque une pause. Dans un instant, le scandale à Bruxelles, le Qatar suspect.
RTL dimanche soir.
Sombre nuit, triste nuit, je me sens si seul à Noël. Je n'ai que la télé comme ami, aux solitudes infinies.
2 millions de personnes âgées vivent dans l'isolement. Ne laissons pas nos aînés seuls à Noël. Agissez sur petitfrèresdespauvres.fr.
RTL.
RTL vous présente sa web radio de Noël. Plongez dès maintenant dans l'esprit des fêtes grâce à la web radio de Noël. Une programmation des plus grands standards de Noël à retrouver sur l'appli RTL ou sur rtl.fr. Renault.
1992, Renault révolutionne la ville avec Twingo, la citadine fun et colorée.
2022, Twingo, toujours en phase avec son temps et 100% électrique. Et avant le 31 décembre, profitez de Renault Twingo E-Tech 100% électrique avec jusqu'à 6000 euros de bonus écologique et 2500 euros de prime à la conversion. Renault, numéro 1 des ventes électriques en France.
Voir détails et conditions sur les sites gouvernementaux dédiés, réservés aux particuliers. Étude de janvier à octobre 2022, source AAA Data. Voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Chérie, j'ai trouvé une idée de cadeau de Noël pour Arthur.
Je t'écoute, mais abordable, hein, chérie. Tu sais que cette année, on fait attention.
Le Samsung Galaxy S22.
Oula, heureusement que je viens de te dire abordable.
Bah oui, bah justement, chez Free, c'est le Noël, waouh. Et il y a 160 euros remboursés sur le Samsung Galaxy S22. Mais tu te rends compte? Comme ça, tu te ruineras pas.
Ah oh, dis donc, oui, ça vaut le coup. L'art de faire plaisir sans se ruiner. Offre soumise à condition, valable avec le forfait Free ou la série Free. Location avec option d'achat, remboursement sur demande avec une souscription Free Flex. Rendez-vous dans votre boutique Free.
Ce qui rend un bijou précieux, c'est aussi son histoire.
Nous avons tous une histoire vraiment précieuse. Celle d'une rencontre émouvante, d'une amitié retrouvée, d'un amour passionnel. Pour Noël, célébrez votre histoire avec un cadeau vraiment unique. Offrez un bijou précieux.
Rendez-vous vite chez votre bijoutier joaillier. Liste des points de vente sur lesbijouxprécieux.com.
Méfiez-vous, le maître du thriller Harlan Coben est de retour. Identité croisée, son nouveau roman vient de paraître. Un enquêteur aux méthodes très spéciales. Un passé dont il ignore tout. Une recherche ADN et soudain une piste. Au bout, un tueur impitoyable. Identité croisée de Harlan Coben aux éditions Bellefond.
18h-19h15, RTL dimanche soir.
Avec Vincent Parisot.
Loin de l'euphorie de la Coupe du Monde, à Bruxelles, le Qatar fait aussi parler de lui au Parlement européen qui vit donc depuis vendredi soir une situation inédite, une véritable crise, puisque la vice-présidente, qui est grecque, Eva Kaili, a été inculpée pour corruption et écrouée dans cette enquête d'un juge belge qui porte sur d'importants versements d'argent qu'aurait effectué le Qatar pour influencer des décisions au sein de l'Union européenne. 3 autres personnes liées au Parlement européen ont également été incarcérées. Et si la vice-présidente n'a pas pu faire jouer son immunité parlementaire, eh bien c'est qu'elle a été prise en flagrant délit, la main dans le sac de billets. À Bruxelles pour RTL, Hélène Loison.
Et oui, car lors de la perquisition du domicile de la vice-présidente du Parlement, la police belge a retrouvé des sacs de billets, une infraction en flagrant délit, ce qui l'empêche de pouvoir revendiquer son immunité parlementaire. Elle a donc été incarcérée après son audition, tout comme son compagnon, assistant parlementaire, ainsi qu'un ex-eurodéputé italien et un lobbyiste bruxellois. Ils sont poursuivis pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption. D'autres eurodéputés pourraient être impliqués. Hier soir, la police a mené une perquisition au domicile de l'eurodéputé belge Marc Tarabella, perquisition en présence de la présidente du Parlement européen. Il reste pour l'heure en liberté, mais du matériel informatique a été saisi. Une réunion des présidents de groupe est convoquée demain à Strasbourg pour évoquer cette enquête judiciaire qui pourrait encore connaître de nouveaux rebondissements.
Elena Loison à Bruxelles pour RTL. Un nouveau coup de fil entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Le président de la République et le dirigeant ukrainien se sont appelés dans la matinée. Ils préparent la conférence de soutien à l'Ukraine qui est prévue mardi après-demain à Paris. L'Ukraine où des bombardements russes ont fait 2 morts et 5 blessés. Les frappes ont visé la région de Kherson, la grande ville du sud du pays qui a été reprise par l'armée ukrainienne le mois dernier. 34 ans après, un des suspects de l'attentat de Lockerbie est aujourd'hui dans une prison américaine et pourra donc sans doute passer devant un tribunal. Cet attentat à la bombe avait visé un Boeing 747 de la Pan Am en décembre 88 au-dessus du village écossais de Lockerbie. Bilan 259 passagers et membres d'équipage tués, ainsi que 11 personnes qui étaient au sol. Alors, une seule personne, un Libyen décédé en 2012, avait été condamné dans cette affaire. Mais voilà, en 2020, la justice américaine avait annoncé de nouvelles poursuites contre un ancien membre des services de renseignement de Kadhafi. Et cet homme était à l'époque détenu en Libye, soupçonné d'avoir assemblé et programmé la bombe. C'est cet homme qui est aujourd'hui dans une prison américaine. On ne sait pas comment et à quel titre il a pu être transféré aux États-Unis. Après avoir rendu visite à la Lune et s'est aventuré plus loin dans l'espace que tout vaisseau habitable avant elle, la capsule Orion de la NASA doit donc atterrir dans environ une demi-heure à 18h40 dans l'océan Pacifique. Dernière étape de la mission Artemis 1. Les enjeux, on le sait, sont énormes pour l'agence spatiale américaine. Mais attention, attention, ce retour sur Terre de cette capsule sans astronaute pour cette fois est peut-être le moment le plus délicat avec l'entrée dans l'atmosphère. Écoutez Philippe Perrin, un ancien astronaute de l'Agence spatiale européenne.
Ça va être un moment critique, ce sera l'entrée dans l'atmosphère. Alors qu'est-ce qui peut se passer? On le sait depuis les missions Apollo, c'est un problème de trajectoire. Mais si la trajectoire est trop pentue, le véhicule brûle. Si elle n'est pas assez pentue, il rebondit, il repart dans l'univers. Ce véhicule va rentrer dans l'atmosphère, à l'atmosphère 120 km de hauteur. Là, il va commencer à chauffer parce qu'il arrive à 40 000 km/h. Donc il a un bouclier, un gros bouclier, le plus gros bouclier jamais conçu, qui fait 5 mètres de diamètre. Et là, il faut que le bouclier résiste. Mais c'est un bouclier qui a déjà fait des tests, pas aussi chaud, mais quelques tests. Et puis ensuite, il va faire pour la première fois un rebond sur l'atmosphère. Il faut quand même que ça se passe bien, on l'a jamais fait. C'est quelque chose qu'on imaginait faire à l'époque des missions Apollo, mais c'est quelque chose à l'époque qu'on ne pouvait pas faire. Ça demande beaucoup de capacité de calcul, des capteurs, une connaissance de l'atmosphère qu'on a aujourd'hui.
Voilà, donc Philippe Perrin, ancien astronaute de l'Agence spatiale européenne. Donc la capsule Orion est attendue pour 18h40, amerrissage dans l'océan Pacifique. Évidemment, on vous tiendra informé dans le journal de 19h. Comme à Calac, dans les Côtes-d'Armor, en septembre dernier, l'ouverture d'un centre de migrants fait aujourd'hui polémique à Saint-Brévin-les-Pins, en face de Saint-Nazaire, station balnéaire. Un centre d'hébergement qui devait ouvrir fin 2023 à la Pierre Attelée, exactement. Et là encore, comme à Calac, deux manifestations se sont déroulées aujourd'hui, comme un face-à-face. D'un côté, les opposants, de l'autre, les défenseurs de ce centre. Reportage, Nicolas Bobby.
Oui, deux rassemblements à 500 mètres de distance, au milieu le marché dominical et une forêt de gendarmes pour éviter tout face à face. Kevin refuse ce CADA, ce centre d'hébergement d'urgence, prévu à côté de l'école.
Mais suffit qu'il y en ait un qui, pour un oui, pour un non, agresse un de nos enfants ou même pire, le tue. Comment vous guérissez en tant que parent de la mort d'un enfant? C'est impossible, c'est impossible. Moi, je ne l'ai pas vécu et j'ai pas envie de le vivre.
Les opposants ont déambulé dans les rues pendant que le collectif des Brévinois attentifs et solidaires, présidé par Philippe Croze, se rassemblait face à l'océan.
On accueille en moyenne 60 à 80 migrants depuis 2016. C'est jamais passé aucun incident. Donc la peur et la crainte que répandent les opposants au CADA étaient totalement infondées. Il y a un relan de xénophobie en fait qui est derrière tout ça. Hein.
Finalement, il n'y a pas eu d'affrontement.
Merci. Reportage Nicolas Bobby, donc du côté de Saint-Brévin-les-Pins. La politique, ce sera dans quelques minutes, puisque vous le savez, les Républicains ont voté pour désigner le successeur de Christian Jacob. Vote électronique qui s'est achevé à 18h. Pour tout vous dire, on pensait avoir le résultat assez rapidement, visiblement. Ça traîne un peu pour savoir qui va l'emporter entre les deux candidats à cette présidence des Républicains. On va marquer une courte pause. Sans doute des réponses dans les minutes qui viennent. A tout de suite sur RTL.
RTL dimanche soir.
Holiday on Ice, le plus grand spectacle sur glace du monde, revient en France. 40 patineurs, 300 costumes, des chorégraphies à couper le souffle, avec la participation exceptionnelle de Sarah Abitbol dans un tout nouveau numéro inédit. Supernova, le nouveau spectacle de Holiday on Ice à Paris à partir du 3 février 2023 et en tournée dans toute la France avec RTL.
À Noël, n'oublions pas la planète. En triant nos emballages en verre, on économise de l'énergie, du sable, du calcaire. Trier, c'est donner un peu de répit aux ressources de la Terre. Ensemble avec Citeo et Adelphes.
Vous nagez comme une enclume. Vous trouvez toujours l'eau trop froide. Vous êtes plus pantoufle que bottes. Vous êtes traumatisé par les dents de la mer. Vous ne serez peut-être jamais sauveteur en mer, mais vous pouvez être donateur. Donner à Terre, c'est sauver en mer. Faites un don sur snsm.org.
18h-19h15, RTL dimanche soir.
Avec Vincent Parisot.
Et 18h, c'était l'heure de la fin du scrutin électronique pour l'élection du président de LR. Match qui oppose Bruno Retailleau à Éric Ciotti. Alors pour vous dire toute la vérité, on pensait vraiment avoir le résultat qui devait être annoncé dans la foulée de la clôture du scrutin. Alors est-ce qu'il faut s'en inquiéter, Thomas Després ? Vous suivez ce scrutin de très près pour nous.
Non, du tout, Vincent. Pour tout vous dire, les choses sont en train de s'agiter. On voit que d'ici quelques secondes, Annie Genevard va venir annoncer les résultats. Selon toute vraisemblance, c'est Éric Ciotti qui a remporté cette élection. Une élection plutôt serrée, alors qu'Annie Genevard est en train de rentrer ici dans cette salle et qu'elle va annoncer, allez, Vincent, d'ici 5 minutes, les résultats. Je reviens vers vous dès que les résultats seront officiellement annoncés, mais il n'y a plus à attendre longtemps.
Bon, bah écoutez, dès qu'elle annonce le résultat, vous nous faites signe, vous avez l'antenne. Entre Bruno Retailleau donc et Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes qui fait figure de favori et qui défend, disons-le, un cap de droite assumé, qui refuse le politiquement correct, qui est très ferme sur les sujets régaliens et sur la sécurité comme sur l'immigration. On vous donnera le résultat donc en direct et on y reviendra largement dès le début du MacPoll à 18h30. On en sait plus sur le chèque énergie exceptionnel. Le décret du gouvernement a été publié aujourd'hui. Il va venir en complément du chèque classique qui est distribué depuis 2018 à 6 millions de foyers. Il s'agira d'une aide de 100 à 200 euros qui va être payée donc pour aider à payer les factures d'électricité ou de gaz à 6 millions de foyers supplémentaires. Au total, donc, cela va représenter 12 millions de foyers qui vont en bénéficier. Et on connaît maintenant les conditions selon lesquelles on pourra ou non le percevoir. Dans deux semaines exactement, nous serons le 25 décembre. C'était donc un dimanche consacré aux cadeaux dans de nombreuses zones commerciales. Chacun s'active pour qu'il y ait des paquets au pied du sapin, pour satisfaire tout le monde, avec des techniques assez diverses, que ce soit avec ou sans la fameuse liste de cadeaux de Noël, au gré des vitrines, le nez en l'air ou même parfois carrément au pif. Reportage à Marseille, au centre commercial Les Terrasses du Port. Le Père Noël s'appelle Étienne Baudu.
Ah oui, il y a celles et ceux qui sont très organisés. Amy et sa belle-sœur Léa, par exemple, elles ont pris leur journée, elles sont arrivées dès l'ouverture et repartiront ce soir. Et elles ont leur liste qu'elles mettent à jour au fur et à mesure.
C'est ça sur le portable, avec les petits trucs pour cocher. Cadeaux, par exemple, Lego pour mon copain, des chaussures, survêtements, pour les papas, pour les mamans, tout le monde, quoi.
Et le papier cadeau, évidemment.
Oui, papier cadeau pour emballer tout ça, quoi.
Très organisé, donc, contrairement à Elodie, croisée avec sa fille, flânant de vitrine en vitrine et évidemment sans aucun.
Non, moi j'y vais au pif. J'y vais, je regarde et je rentre dans les magasins et s'il y a quelque chose qui pourrait plaire, je prends. Donc c'est un petit peu compliqué.
Elodie qui reviendra du coup sans doute la semaine prochaine. Et puis enfin, il y a ceux qui ont déjà pris les devants. Célia a déjà acheté tous ses cadeaux il y a 2 semaines et finalement profite des animations avec sa fille Anna en musique.
Juste pour balader un petit peu l'ambiance de Noël, les petites lumières. La photo du Père Noël avec Anna. Dès qu'on est arrivé, il est où le Papa Noël?
Il est où le Papa Noël? On ne sait pas. Apparemment, dans 6 jours, dans 13 jours, il va descendre par la cheminée. Mais ça, c'est une toute autre histoire. En tout cas, les habitants de l'agglomération de Strasbourg vont pouvoir prendre le réseau express métropolitain européen pour aller faire leurs courses. En effet, il est entré en service aujourd'hui. C'est le tout premier RER hors Île-de-France. 2 à 3 plus... Un nombre de trains 2 à 3 fois plus important. J'y arrive, je suis un peu perturbé, mais on va tout savoir avec Yannick Holland.
Eh bien, ce RER, ça veut dire 2 à 3 fois plus de trains pour un dimanche comme aujourd'hui. Et c'est ce que Maddy attendait avec impatience. Elle vient de Haguenau pour travailler à Strasbourg. Et cette ligne est surchargée en temps normal. Le soir, c'est compliqué de rentrer.
Il était temps, en fait, parce que c'est une catastrophe. Hein. À partir du vendredi, c'est une catastrophe, les trains, parce qu'ils s'arrêtent, je crois, à 19h51. Et il y a un bus à 21h25. Ça fait 2 fois de suite, je me fais jeter parce qu'il n'y a pas de place.
Exemple concret, donc, pour Maddy, ce dimanche soir, eh bien, elle aura désormais 3 trains après 20h et un dernier bus à 22h35. Alain Yund est le vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg en charge des transports.
C'est 120 trains supplémentaires par jour qui vont desservir tous les quarts d'heure et toutes les 20 minutes l'ensemble de l'étoile ferroviaire autour de Strasbourg. Et donc on ne se posera plus la question à quelle heure arrive mon train. On sait que, notamment aux heures pleines, il y aura un train tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes.
Et au total, cette semaine, il y aura 800 trains supplémentaires dans le Bas-Rhin avec ce réseau express métropolitain européen.
Voilà, le REM, voilà, qui est entré en vigueur aujourd'hui, le premier RER en dehors, évidemment, de celui de l'Île-de-France. Les Républicains, ça y est, la fumée blanche est sortie. On a le nom du nouveau président LR, Thomas Desprez.
Oui, c'est Éric Ciotti qui a été élu avec 53,7% des voix face à Bruno Retailleau, 46,3%. C'est un score relativement serré, un proche de Bruno Retailleau cet après-midi, qui savait que le match était très difficile, me disait que tout allait se jouer dans l'écart entre les deux candidats. C'est un écart plutôt faible. Ça veut donc dire que dès demain matin, Éric Ciotti va devoir s'atteler au rassemblement de sa famille politique. Éric Ciotti qui viendra s'exprimer ici au siège des Républicains aux alentours de 21h. Il est attendu avant sur un plateau télé ce soir pour sa première expression en tant que président des Républicains.
Merci Thomas, et surtout n'allez pas trop loin parce qu'on va marquer une courte pause et puis dans un instant ouvrir le MacPoll et on va immédiatement vous retrouver pour parler des conséquences évidemment de cette élection, de cette désignation à l'instant d'Éric Ciotti, nouveau président des Républicains. A tout de suite sur RTL.
RTL dimanche soir avec Vincent Parisot.
RTL sans filtre. Bertrand Chamerois.
Parlons de Joe Biden. Vous m'auriez dit, Joe Biden a l'intention de reprendre de l'île flottante au dessert, ok. Joe Biden a l'intention de regarder Slam en jogging, oui. Mais Joe Biden a l'intention de se représenter, c'est comme dire François Langlais veut gagner le mondial de la Coupe Mulet. Ça n'a pas de sens.
RTL sans filtre, tous les jours à 7h20. Renault. Aujourd'hui, on essaie tous de consommer autrement. Comme Marc qui remet à neuf son vieux vélo ou Julie qui relook sa commode. Chez Renew, depuis 60 ans, nous révisons et reconditionnons vos véhicules pour leur offrir une nouvelle vie. Les garanties Renew en plus.
Et en ce moment avec Renew, repartez avec votre Renault d'occasion prêt à partir et maîtrisez votre budget. 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 euro de plus, pièces et main d'œuvre avec assistance inclus. Renew, nouveau pour vous. Voir conditions sur Renault.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Bonjour, c'est Ophélie Meunier. Pendant 3 ans, nous avons suivi en exclusivité au chantier de l'Atlantique la construction d'un paquebot révolutionnaire. Ouvrier, ingénieur, décorateur ou agent d'entretien, vous allez découvrir une aventure humaine hors norme. Paquebot du futur, l'incroyable défi des chantiers de Saint-Nazaire, c'est ce soir dans Zone Interdite à 21h10 sur M6.
Moi, dès que je suis chez moi, je fais des économies d'énergie. Comment ? Facile, je règle mon chauffage à 19 degrés maximum.
Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement.
Non, pour moi, leur 3-4-3 où tu mises tout sur les pistons en transition, c'est tactiquement risqué. Faut assumer le déséquilibre au milieu. Quoi, t'es pas d'accord ?
Si, t'as lu l'équipe, quoi.
L'expertise est à la portée de tous avec l'abonnement numérique L'Équipe. Accédez aux notes, analyses, enquêtes et contenus exclusifs dès 7,99€ par mois. Abonnez-vous sur le site et l'application, voire conditions sur l'équipe.fr.
RTL dimanche soir.
Le MacPol
avec Vincent Parisot.
Le MacPol, le magazine politique de la rédaction d'RTL, avec ce soir le nouveau président des Républicains, Éric Ciotti. Il vient d'être désigné, vous l'avez d'ailleurs entendu en direct. Le décryptage à suivre dans un instant avec Thomas Desprez, la nouvelle secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, c'est Marine Tondelier, elle a été désignée hier. Elle va devoir relancer un parti en panne. Le grand jury d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, également ministre du Renouveau démocratique, droit dans ses bottes sur la réforme des retraites, vous l'entendrez. Et puis justement, à l'approche de la présentation du projet, le gouvernement compte toujours sur la CFDT pour arrondir les angles. Alors, que va faire la centrale de Laurent Berger ? On va en parler avec Yvan Ricordeau, le secrétaire national de la CFDT, chargé de ce dossier des retraites. Il est l'invité du MacPol.
Vincent Parisot,
le MacPol sur RTL.
Et donc, on connaît depuis quelques minutes le nom du nouveau président des Républicains. Vous l'avez vécu en direct. C'est Éric Ciotti qui a été désigné. C'est vous qui nous l'avez annoncé, Thomas Desprez, sur l'antenne d'RTL, avant tout le monde d'ailleurs. Rebonsoir, Thomas.
Rebonsoir, Vincent.
Ça va changer un certain nombre de choses, évidemment.
Oui, bien sûr, parce que ce parti, il n'avait plus vraiment de chef depuis le départ de Christian Jacob, qui s'était mis en retrait peu après les élections législatives. Éric Ciotti, qui est député des Alpes-Maritimes, qui a un tropisme pour les sujets sécuritaires, pour les sujets régaliens. Il va vraiment vouloir mettre sa patte dans la direction des Républicains, alors que son adversaire, Bruno Retailleau, lui, était davantage tourné vers les sujets identitaires. On disait que l'un était plus sécuritaire et l'autre un peu plus conservateur. Éric Ciotti qui l'emporte donc avec 53,7% des voix contre Bruno Retailleau 46,3%. Je vous le disais tout à l'heure, l'enjeu c'était aussi l'écart entre les deux candidats, parce que Éric Ciotti, il avait une nette avance au premier tour. On a bien vu que cette avance s'est réduite au second tour. Ça veut dire que Bruno Retailleau a récupéré pas mal des voix d'Aurélien Pradier, qui était le troisième dans cette course. Il va donc falloir composer avec toutes les sensibilités pour faire vivre un parti qui a de très nombreux défis, avec en ligne de mire les élections européennes, comme beaucoup de partis. On en parlera avec les écologistes tout à l'heure, les élections européennes où les Républicains avaient fait un peu plus de 7% aux dernières élections, avec un fort enjeu pour notamment partir vers l'élection présidentielle, qui sera l'élection maire dans 4 ans et demi.
Oui, et puis il y a aussi une question importante qui se pose, c'est l'attitude des Républicains à l'Assemblée nationale. Et si elle se pose, elle se pose avec insistance dans la perspective de la réforme des retraites.
Bien sûr, parce que le gouvernement a dit qu'ils avaient besoin des Républicains pour faire passer cette réforme des retraites. Et on va voir comment justement vont se positionner les Républicains dans les prochaines semaines. Au Sénat, un amendement a été voté déjà pour pour modifier l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Bruno Retailleau y est plutôt favorable. Éric Ciotti, lui, souhaite plutôt se mettre dans une position vraiment opposée au gouvernement. Ça va donc être tout l'enjeu des prochaines semaines, savoir comment ils vont se positionner et s'ils acceptent ou pas de faire un accord, un deal avec le parti d'Emmanuel Macron. Mais ça se passera dès demain matin. En attendant, là on attend la venue d'Éric Ciotti et on risque de l'attendre un petit peu parce qu'il n'est pas annoncé ici avant 21h.
Ah oui, bon bah la soirée sera longue alors du côté des Républicains.
Mais Vincent, il sera chez nous demain matin, Éric Ciotti.
Sur l'antenne d'Amandine
Bégaud et d'Yves Calvi demain matin.
Voilà, à 7h40, soyez au rendez-vous avec le nouveau président des Républicains, Éric Ciotti, qui a donc été élu avec 53,7% des voix des électeurs républicains. Merci Thomas Després. On vous retrouve d'ailleurs tout à l'heure pour décrypter une autre nouvelle présidence, celle d'Europe Écologie Les Verts, avec Marine Tondelier qui, elle, a été désignée hier. Olivier Véran, le ministre du Renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement, était lui l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Alors l'émission, bien sûr, a débuté avec le foot, la satisfaction de la qualification des Bleus en demi-finale, la confirmation du déplacement d'Emmanuel Macron au Qatar mercredi soir pour ce match face au Maroc. Ça doit être une fête, a-t-il dit, tout en assurant que les services de sécurité vont s'organiser pour éviter les débordements. Pour le port du masque face au Covid, à retenir une incitation à le porter, notamment dans les transports et quand il y a du monde dans un lieu clos, mais pas d'obligation pour l'instant, a-t-il précisé. Et puis bien sûr, ce grand jury d'Olivier Véran a été largement consacré à la réforme des retraites.
On est dans la recherche de consensus. D'abord avec les syndicats, etc., en leur disant, est-ce qu'il y a une formule d'une réforme des retraites dont l'objectif, je le rappelle, est d'équilibrer les comptes des retraites pour être sûr que les Français puissent bénéficier dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans d'une retraite sans baisser les pensions et sans augmenter les impôts. Nous sommes prêts à tout envisager dès lors que les conditions, le principe, sont respectées, sont tenues. Je les rappelle brièvement. 1. Faire en sorte que les cotisations des Français soient équilibrées avec les pensions versées aux retraités. 2. Ne pas augmenter les impôts des Français, donc ne pas augmenter les cotisations des salariés. 3. Ne pas baisser les pensions de retraite des actuels retraités. Quand on est dans ce cadre-là, tout est sur la table. Sur l'ensemble du texte des retraites, moi je considère qu'il y a une voie de passage nous permettant d'obtenir un accord avec une partie des oppositions.
Voilà donc pour l'essentiel de ce grand jury, vous l'avez entendu, largement consacré à la réforme des retraites. On y revient avec ses intervieweurs, Olivier Boss pour RTL, bonsoir.
Bonsoir.
Amélie Carouer pour TF1 et CI, bonsoir.
Bonsoir.
Jim Jarassé est avec nous aussi pour Le Figaro, bonsoir.
Bonsoir.
Ainsi que Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr. Porte-parole du gouvernement, mais ce midi sur RTL, porte-parole de la réforme des retraites, est clairement droit dans ses bottes. Les 65 ans.
Alors, les 65 ans, avec quand même quelques petites marges encore de manœuvre qui laissent entr'ouvertes. Il y a d'abord, alors ça, je pense qu'il n'y croit pas beaucoup lui-même, mais l'idée qu'ils peuvent discuter avec les syndicats jusqu'à mercredi, avant l'annonce jeudi formelle par Elisabeth Borne, la Première ministre. Bon, ça ne semble pas une fenêtre très très large. Et ensuite, ça c'est plus intéressant, l'espoir toujours d'arriver avec les Républicains au Sénat et à l'Assemblée à trouver des votes possibles positifs. Alors pas forcément un vote sur l'ensemble de la loi, mais se mettre d'accord sur un certain nombre de principes. Et pourquoi pas les 65 ans ou 64 ans, là-dessus franchement on n'est pas très avancé.
Il met la droite LR face à ses contradictions, notamment la droite qui au Sénat régulièrement votait des amendements sur la barre des 65 ans.
Ça ne veut pas dire qu'à la marge ils ne vont pas être obligés de convaincre les Républicains. Gérard Larcher sur cette antenne avec nous la semaine dernière disait moi par exemple sans l'emploi des seniors j'y vais pas. On peut être d'accord pour l'âge, l'allongement durée de cotisation, etc., mais de ne pas être d'accord pour tout ce qui va avec. Et le tout ce qui va avec, c'est très important en réalité pour les Français. Pénibilité, carrière longue, l'emploi des seniors, etc. Et finalement, c'est peut-être ça qui va être le plus important dans les prochains jours, dans ce qui va se jouer dans les discussions, que ce soit avec les syndicats et que ce soit avec les responsables politiques, et notamment les Républicains.
Marie-Pierre Haddad.
Et les Français, on le voit, sont vraiment dans l'attente de cette fameuse réforme des retraites. Bon, ils n'ont pas forcément les réponses ce dimanche parce qu'Olivier Véran est resté très évasif. Mais on sent aussi qu'il y a un sentiment de lassitude qui commence à opérer. Cette réforme des retraites, on en parle depuis longtemps, depuis le précédent quinquennat. Et même chez les députés macronistes, certains disent... Bon allez, c'est le moment d'arracher le sparadrap et de rentrer dans le dur du sujet et de sortir aussi de toute cette petite négociation qui les épuise à l'Assemblée avec les députés et les Républicains.
D'ailleurs, pas impossible que le gouvernement, je reprends votre mot, mise sur la lassitude. Quand on parle hors caméra avec des membres du gouvernement, ils ne semblent pas croire très très fort effectivement aux futures mobilisations, mais sincèrement. Et en fait, le constat, il est pire. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, on n'a peut-être pas de la colère face à nous, on a de la lassitude. Pardon, point de vue personnel, j'estime que c'est pire, la lassitude que la colère. Mais peut-être mise-t-il justement là-dessus, sur cette fatigue démocratique, justement, pour se dire que cette fois, ça peut le faire.
Donc pas d'inquiétude, a priori, en tout cas apparemment, sur la mobilisation syndicale qui pourrait déboucher sur quelque chose de plus difficile à gérer dans les rues ?
Bah, c'est tout ce qui ressort de toutes les missions, en fait. Mmh. Parce que Olivier Véran se montre pas franchement inquiet sur la réforme des retraites, sur l'inflation en général, sur la difficulté en particulier des entreprises pour faire face au coût de l'énergie notamment, et puis toute l'inflation galopante qui concerne absolument tout le monde. Olivier Véran ne se montre pas très inquiet sur l'idée que tout ça, effectivement, pourrait coaguler, rassembler des gens et finir en colère, mais effectivement plutôt en lassitude.
Vous avez entendu, comme moi, il y a quand même une main tendue à la CFDT. Jim Jarrasseyi dit on va donner satisfaction sur un certain nombre de points à la CFDT.
Bien sûr, il y a une main tendue, mais comme le disait Olivier tout à l'heure, les délais sont désormais très courts. On a du mal à voir comment ils vont pouvoir remettre la CFDT dans le jeu à partir du moment où la CFDT bloque sur la question de l'âge. Je vois pas très bien comment le gouvernement peut avancer sans revenir sur le fond de sa réforme.
Amélie Carouer.
Mais visiblement, il n'est pas impossible que tout ça se deal, comme on dit en mauvais français, à la fin entre le président de la République et Laurent Berger directement. Mmh. Et qu'on discute un peu, pardonnez-moi l'expression, mais d'homme à homme, en se disant, bon, ok, tant que tu n'as pas dit le mot bloqué, c'est que ça peut se débloquer. Qu'est-ce qu'on peut encore se donner ? Ça peut se passer comme ça parfois. Mmh. Deux hommes qui vont se parler en se disant, on ne parle pas que d'aujourd'hui, on parle de la suite, qu'est-ce qu'on met dans la balance ?
Eh bien, nous, on va en parler dans quelques minutes, justement, avec le secrétaire national de la CFDT, qui est chargé de ce dossier des retraites, Yvan Ricordeau. Il sera avec nous dans quelques instants. Merci Olivier Bost, Amélie Carouer, Jim Jarrassé et Marie-Pierre Haddad qu'on retrouve tout à l'heure pour l'agenda.
Le MacPol, Vincent Parisot.
Fini les plans galères pour voir les matchs. Rendez-vous dans votre restaurant au bureau. Écran géant, burger, planche à partager, ambiance de folie. Vivez tous les matchs en direct au bureau. Infos et réservations sur aubureau.fr. Pour votre santé, bougez plus.
RTL.
Moi, le matin, je file à la douche pour me réveiller et j'économise 10% d'énergie. Comment ? J'ai réglé mon chauffe-eau à 55 degrés et je prends des douches moins longues. En plus, fini les retards.
Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement.
Renault. Aujourd'hui, on essaie tous de consommer autrement. Comme Marc qui remet à neuf son vieux vélo ou Julie qui relook sa commode. Chez Renew, depuis 60 ans, nous révisons et reconditionnons vos véhicules pour leur offrir une nouvelle vie. Les garanties Renew en plus.
Et en ce moment avec Renew, repartez avec votre Renault d'occasion prêt à partir et maîtrisez votre budget. 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 euro de plus, pièces et main d'œuvre avec assistance inclus. Renew, nouveau pour vous. Voir conditions sur Renault.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RTL dimanche soir.
Le MacPol.
Avec Vincent Parisot.
La réforme des retraites est donc sur le feu, prête ou presque à être servie, avec sans doute un report de l'âge légal à 65 ans ou à 64 ans, couplé à une augmentation de la durée de cotisation. Texte présenté jeudi prochain par Elisabeth Borne. Pour le faire voter, l'exécutif aura sans doute recours à un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale en début d'année prochaine. Et l'avantage, comme pour tout texte financier, c'est qu'il permet d'utiliser le 49.3. L'invité du MacPol est donc le secrétaire national de la CFDT chargé du dossier des retraites. Bonsoir Yvan Ricordeau.
Bonsoir.
Merci d'être ce soir en direct sur RTL. 65 ans pour la CFDT, quels que soient les aménagements, c'est toujours non ?
Oui, ça a toujours été non pour la CFDT, ça restera négatif pour une raison, c'est que c'est la mesure la plus brutale et la plus injuste à utiliser pour réformer les retraites. On l'a toujours dit. D'ailleurs, quand vous regardez ce que la CFDT a fait sur les retraites, elle s'est engagée avec beaucoup de responsabilité quand on a utilisé des paramètres qui étaient justes, comme la durée de cotisation. Elle s'est toujours opposée quand on a utilisé des paramètres injustes, comme l'âge légal. Donc, la retraite à 65 ans pour la CFDT, c'est toujours non et ça sera toujours non.
Alors, on sait qu'Emmanuel Macron souhaite toujours convaincre la CFDT. Écoutez ce que disait Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, ce midi au grand jury à votre sujet, enfin je veux dire de la CFDT.
On ne combat pas la CFDT. On explique que nous avons été élus avec un engagement qui était celui de réduire la dette publique, les déficits publics et de consolider notre modèle de protection sociale. Ça ne veut pas dire qu'on fonce tête baissée sans écouter. Je n'ai jamais vu un cycle de consultation et de concertation des partenaires sociaux aussi poussé, rentrer autant dans les détails. Et vous verrez d'ailleurs que parmi les demandes de la CFDT et d'autres syndicats, un certain nombre ont été entendus en termes de simplification et de protection des Français qui le nécessitent le plus.
Donc vous avez déjà été entendu sur un certain nombre de points ?
Bien écoutez, on a rencontré la semaine dernière la Première Ministre et pour l'instant, on n'a aucune confirmation de ce que vient de dire Monsieur Olivier Véran. Pour la CFDT, c'est clair que si on est entendu, ça veut dire que le gouvernement renonce aux 64 ans ou aux 65 ans. Donc j'ai écouté le début de votre émission, je pense que ça n'a pas été annoncé aujourd'hui. Et donc du coup, c'est ça l'élément névralgique. Après, on a joué le jeu de la concertation, c'est complètement normal pour une organisation syndicale. Et on a eu des revendications très fortes sur la question de la pénibilité, sur la question de l'emploi des seniors, sur les enjeux des carrières longues qui vont être particulièrement touchés si le gouvernement persiste dans sa volonté de reporter l'âge légal. Et donc sur ces éléments fondamentaux pour la CFDT, là non plus, on n'a pas de réponse. Donc il reste 3 jours, 4 jours, on a compris que la réforme serait annoncée jeudi pour obtenir satisfaction sur l'ensemble des problématiques, parce que la CFDT le redit, le report de l'âge légal, c'est pas un élément de passage pour cette réforme-là.
C'est-à-dire qu'il y a encore des choses à négocier d'après vous d'ici mercredi soir ? Ou ça y est, c'est figé ?
La CFDT n'espère pas que ça soit figé, parce que au vu des éléments qui pour l'instant ont été présentés de façon très généraliste, le compte n'y est pas globalement sur l'emploi des seniors, c'est-à-dire que on ne comprend pas ce qui va changer dans le monde de l'entreprise demain pour faire en sorte que les salariés travaillent plus longtemps, mais dans des meilleures conditions. Donc, il faut améliorer l'emploi des seniors pour que les salariés ne sortent pas cassés ou sur des dispositifs d'invalidité tels que c'est aujourd'hui trop de fois le cas. Donc, il y a sur cette question-là, on n'a pas de réponse. Et sur la pénibilité, on a un début de réponse qui prend en compte notre revendication, mais on n'a pas des droits en dur pour les salariés pour qu'ils partent en départ anticipé quand ils sont exposés sur des métiers pénibles. Donc, il reste plusieurs jours pour aller au bout de ces discussions-là, mais il reste aussi plusieurs jours pour faire la démonstration que le report de l'âge légal, c'est pas la bonne solution.
Ce matin, dans le journal du dimanche, François Bayrou, qui déplore par ailleurs l'absence de pédagogie dans cette affaire, préconise d'augmenter d'un point les cotisations patronales retraite et de les passer de 16,5% à 17,5%, et qu'ainsi tout le monde fasse un pas pour éviter de monter à 65 ans. Qu'est-ce que vous en dites ?
L'intervention de François Bayrou est intéressante parce que elle situe bien l'enjeu d'une réforme des retraites qui est une question de société et qui n'est pas une question de comptabilité publique. Or, je pense qu'aujourd'hui, les salariés comprennent qu'ils vont payer un impôt au travail 3 ans supplémentaires pour absolument rien de plus pour leur retraite. Donc, je pense que c'est bien de présenter les enjeux comme ça. Je me permets quand même de dire que dans la présentation des difficultés financières, François Bayrou fait le choix de noircir plus le tableau que le gouvernement. Donc, ça fait partie des éléments qui sont un peu compliqués. Cela étant dit, dans son interview, il met bien en perspective que pour qu'une réforme de cette nature-là soit soutenable, eh bien, il faut avancer un paquet de mesures et pas uniquement une mesure brutale sur l'âge, mais qu'il faut jouer avec un paquet de mesures, dont la question de la cotisation. Et ce que dit la CFDT sur cette question-là, c'est que ça serait de bon augure de faire en sorte de fixer des objectifs très ambitieux sur la question de l'emploi des seniors et d'assurer l'atteinte de ces objectifs-là par une cotisation qui arrive si jamais l'emploi des seniors ne s'améliore pas. Et donc, avoir une conditionnalité entre les deux, ça fait partie des revendications que la CFDT a poussées dans cette concertation retraite.
L'avenir de cette réforme va se jouer où ça, d'après vous, dans la rue ou à l'Assemblée, Yvan Ricordeau ?
Alors déjà, l'avenir de cette réforme ne se joue pas dans les interviews, mais se joue au moment de l'annonce officielle. Donc on va attendre que le gouvernement annonce officiellement sa réforme et précisément l'ensemble des dispositions. Après, clairement, si peut-être jeudi ou un autre jour, on verra l'annonce des 65 ans, la CFDT appellera les salariés à se mobiliser dans la rue pour s'opposer à cette mesure-là.
Mobilisation intersyndicale avec la CGT et les autres syndicats ?
Oui, bien sûr. Ouais, on s'est rencontrés régulièrement ces derniers temps pour faire le point sur les concertations, mais aussi pour se dire que cette mesure-là était particulièrement injuste pour les travailleurs et qu'il faudrait s'y opposer s'il confirmait. Donc la CFDT fera le choix de s'opposer au relèvement de l'âge légal à 64 ou à 65 ans. C'est ce qui est annoncé par la Première Ministre cette semaine.
Merci beaucoup, Yvan Ricordeau, secrétaire national de la CFDT chargé du dossier des retraites. Merci d'être intervenu ce soir sur RTL. Marine Tondelier, donc depuis hier la nouvelle secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Je vous resalue, Thomas Després.
Rebonsoir Vincent.
Marine Tondelier, c'est pas lui faire injure, mais elle est peu connue du grand public. Dites-nous qui elle est.
Pourtant, ça fait une dizaine d'années qu'elle gravite autour de la direction nationale des écolos. Marine Tondelier, elle a 36 ans, elle a adhéré à Europe Écologie Les Verts en 2009. Elle a grandi à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, dans ce fief désormais dirigé par le Rassemblement National, où elle est conseillère municipale d'opposition.
Voilà donc pour son...
Oui, vous avez le droit de dire que...
Pardon, le son était parti, c'est à vous Vincent.
Oui, portrait rapide hein, de Marine Tondelier,
très rapide.
Quand même à un moment compliqué pour les écologistes, entre l'affaire Bayou, la guerre interne Jadot-Rousseau, elle a du boulot hein.
Ah oui, ça c'est sûr, mais elle jure que ça ne lui fait pas peur. Pour vous dresser une toute petite liste, Marine Tondelier, elle veut rénover de fond en comble Europe Écologie Les Verts, changer le nom du parti et recruter 1 million de sympathisants, tout ça d'ici 2027.
Oui, vous avez le droit de dire que c'est ambitieux, mais c'est exactement ce que mérite l'écologie. On va relever le drapeau et repartir à l'offensive.
Repartir à l'offensive, Marine Tondelier, son ambition, c'est de faire que les écologistes soient la première force de gauche d'ici la fin du quinquennat, quitte à prendre aussi ses distances avec le reste de la NUP. D'ailleurs, elle a prévenu hier, hein, les écologistes présenteront leur propre liste aux prochaines européennes sans faire l'union avec la France insoumise.
Et ça, ce sera en 2024, mais avant ça, il y a quand même un autre défi, c'est celui de l'unité des écologistes.
Oui, on a parlé tout à l'heure de Sandrine Rousseau et c'est vrai que tout le monde avait cette question à la bouche hier. Est-ce que Marine Tondelier va réussir à éviter que se répètent les polémiques du passé? Alors pour ça, elle a une solution radicale. Elle a fait signer à tous les membres de la direction des écologistes une charte qui les engage à ne pas faire état de leur division pour qu'en quelque sorte le linge sale soit lavé en famille. Et pour Yannick Jadot, ancien candidat à la présidentielle, c'est plutôt une bonne chose.
Une formation politique, c'est pas une personne, c'est un collectif. Il faut toujours jouer collectif. On peut travailler à ce qu'il y ait moins de prises de parole dissonantes et qui parfois met le mouvement en difficulté. Ou vous a pas échappé que pendant la campagne présidentielle, j'ai pu être parfois un peu parasité par des voix dissonantes. Je pense pas que ça a aidé à ce moment-là.
Voilà, on a bien entendu hein, le clin d'œil à Sandrine Rousseau, les choses sérieuses pour Marine Tondelier qui vont commencer dès demain avec un déplacement sur le terrain. Ce sera à Colombes, à côté de Paris.
Merci Thomas Després.
Le MacPaul, Vincent Parisot.
Comme chaque semaine, avant de fermer le MacPaul, on ouvre l'agenda politique de la semaine à venir. C'est avec vous Marie-Pierre Haddad. Rebonsoir.
Rebonsoir. Demain, Emmanuel Macron va présider à l'Élysée le Conseil National de la Refondation, le CNR. Une réunion organisée en grande pompe pour montrer que non, ce n'est pas un échec. Et c'est très important pour le président parce qu'il en a fait l'exemple type de sa nouvelle méthode et vous savez, de sa nouvelle façon de gouverner.
Et puis demain également, Laurent Wauquiez va organiser une conférence de presse.
Une conférence de presse sur le zéro délinquance dans les gares d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors ça risque de ressembler à un meeting présidentiel, mais avant 2027, Laurent Wauquiez va devoir batailler en interne chez les Républicains contre Xavier Bertrand qui vise aussi l'Élysée.
Alors mardi, les suites de l'affaire Adrien Quatennens, puisque l'ancien numéro 2 de la France Insoumise va être entendu par le parquet de Lille.
Et pendant ce temps, la France Insoumise, elle, ne cesse de se diviser. Manuel Bompard a été désigné pour remplacer Adrien Quatennens au poste de numéro 2 du mouvement. Et en interne, cette nomination est contestée par Clémentine Autain ou encore François Ruffin, qui veulent, eux, faire peser une autre ligne que celle de Jean-Luc Mélenchon.
Bon, mercredi, évidemment, mercredi soir, en tout cas, on a foot. Hein, c'est la demi-finale du Mondial. La France face à qui?
Face au Maroc. Emmanuel Macron va se rendre au Qatar pour assister au match. Le président applique son fameux « et en même temps » avec ce Mondial très controversé. Lui soutient les Bleus et se risque même à des pronostics. Et la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, soutient aussi l'équipe de France, mais fait surtout passer des messages politiques en faveur des droits LGBT.
Voilà, et puis jeudi, on en a beaucoup parlé, Elisabeth Borne va dévoiler la feuille de route sur la réforme des retraites. Et puis le lendemain, le vendredi,
Jean-Luc Mélenchon, lui, sera en meeting à Saint-Étienne, un rassemblement contre la vie chère pour tenter de revenir sur le devant de la scène politique.
Et dimanche prochain, à nouveau MacPaul. Merci Marie-Pierre Haddad. Il est 18h52. Dans un instant, Alain Bougrain-Dubourg refait la planète.
Et alors, Ryan, tu adores Madame Roselyne Bachelot, c'est ça?
Ah, je comprends. Elle est drôle et intelligente, je me demande pourquoi elle fait de la politique. Ah.
Les grosses têtes, chaque jour à 15h30 sur RTL.
RTL, rire ensemble. On refait la planète sur RTL avec la Fondation Engie. Fondation Engie, agir pour demain, agir pour la citoyenneté. RTL.
On refait la planète.
On refait la planète.
Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parisot.
On refait la planète. C'est tous les dimanches soirs sur RTL. Et c'est parti, grâce et avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain.
Bonsoir Vincent.
On commence chaque émission avec un son de la nature, un son mystère qu'on doit découvrir, mais vous nous donnez un indice.
Alors, aujourd'hui, c'est « Elle ne vient à terre que pour donner la vie ».
Alors, on l'écoute.
« je dois souligner que c'est un son exceptionnel qui nous est confié par le CNRS.
Et moi, je dois souligner que j'en ai absolument aucune idée, mais vous nous donnerez la réponse à la fin de l'émission.
On refait la planète sur RTL.
Alors Alain, hier, samedi, s'est tenu le Forum de la mer à la Maison des Océans à Paris, dans le 5e. Plus d'un million d'emplois, c'est énorme, hein, sont prévus dans l'avenir pour la mer. Alors ça va du plongeur professionnel à la construction navale, en passant par la recherche océanographique. L'éventail des activités est donc énorme. Mais vous, ce soir, vous avez choisi de faire escale dans le lycée de la mer et du littoral. C'est à Bourcefranc-le-Chapu.
Oui, il est situé aux portes de l'île d'Oléron, en Charente-Maritime, et il accueille quelques 800 élèves qui vont notamment s'orienter vers l'élevage des huîtres et des moules, mais aussi des poissons ou des crevettes. Et pour ce lycée, le respect de l'environnement est devenu une priorité, comme l'explique Arnaud Lefebvre, directeur, à propos des plastiques.
L'idée, c'est de sensibiliser les futurs professionnels, mais également les professionnels présents sur notre territoire. Pour ça, on travaille sur un programme qui s'appelle IDEMAR et qui consiste au ramassage des plastiques, à leur réutilisation, à leur usage dans d'autres activités et finalement à tenter de trouver des alternatives à l'usage des plastiques.
Voilà, donc ramassage, réutilisation finalement.
Sensibilisation aussi, ouais. Oui, c'est important.
Et puis la question du bien-être animal, elle est essentielle, elle est prise en compte.
Oui, hein. Alors on ne s'attend pas tellement avec des huîtres, mais moins on stresse les animaux, plus ils s'épanouissent, et même l'huître est concernée.
Incroyable.
On fait attention à limiter son exposition au soleil, on fait attention lorsqu'on la transporte à terre, à la mettre à l'ombre, à la remettre très rapidement dans l'eau. Le sujet du bien-être animal est primordial pour nous, en particulier avec les poissons, puisque lors des manipulations, le poisson peut subir un stress important. On va limiter la manipulation des poissons, utiliser aussi des épuisettes qui ne vont pas traumatiser physiquement les poissons de façon à ce qu'ils n'aient pas de blessures.
Voilà, donc pas de stress, que ce soit pour les poissons ou pour les huîtres. Et l'état du milieu naturel également est au cœur de cet enseignement.
L'activité ostréicole est un peu une sentinelle en fait, de la bonne qualité du milieu. Avec nos élèves, on va jusqu'à mesurer l'évolution du trait de côte pour voir comment il bouge. Nos parcs ostréicoles, c'est-à-dire les zones sur lesquelles on va élever nos huîtres en mer, sont amenées à bouger. Ces évolutions qui sont mesurées avec des appareils très sophistiqués, très précis par nos élèves lors de TP, nous permettent de sensibiliser nos élèves à l'impact pour l'environnement.
Voilà donc Arnaud Lefebvre, le directeur de ce lycée de la mer et du littoral. C'est aux portes de l'île d'Oléron en Charente-Maritime. Et merci de nous l'avoir fait découvrir ce soir dans Refait la planète, Alain Bougrain-Dubourg, qui est un chasseur, vous le savez, un chasseur d'idées reçues.
Tout à fait.
C'est ce qu'on fait dans cette émission. Alors, avec les grands froids, le moment est venu en ce moment d'aider les oiseaux et de les nourrir. Beaucoup d'amis des oiseaux estiment en fait qu'il faut le faire tout le temps, toute l'année. C'est vrai ou c'est faux ?
Ben c'est plutôt faux.
Ah bon ?
Oui.
Vous, le président de la FPO, vous nous dites ne nourrissez pas les oiseaux toute l'année.
Et je vais vous dire pourquoi.
Oui.
Parce que il vaut mieux s'en tenir à la mauvaise saison, mi-novembre, fin mars, pour deux raisons. D'abord, parce que beaucoup d'oiseaux vont devenir insectivores au moment de la naissance des jeunes. Et donc, si on les nourrit après, ben, ils ont un peu d'intérêt de leur donner des graines. Ouais. Ensuite, parce qu'on risque de rendre dépendants les jeunes qui vont naître et qui seraient nourris et qui, eux-mêmes n'apprendront pas à se nourrir tout seuls. Donc, ce n'est pas une bonne idée. En revanche, au moment où je vous parle, on peut donner du tournesol, des cacahuètes non grillées.
Et ces petites boules de graisse qui sont dans des filets.
Très bien.
C'est bien aussi.
C'est très bien. Moi, je préfère des graisses végétales qu'animales. Mmh. Voilà. Et pas issues d'huile de palme. Pas d'aliments salés, puis du maïs concassé. C'est très bien.
Bon, c'est le moment de nourrir nos amis les oiseaux.
Refait la planète sur RTL.
Alors chaque semaine, Alain, vous nous proposez un événement à ne pas manquer. Et aujourd'hui,
je vous propose de découvrir les étonnantes bestioles de nos maisons grâce à une exposition qui retrace notre cohabitation avec celles qui posent de réels problèmes en s'attaquant par exemple aux structures des maisons, aux aliments, aux vêtements, etc. Et puis il y a les autres. les bonnes bestioles, j'ai envie
ah
de
bon
dire.
Ah bon ? Il y a des bonnes bestioles, j'ai
envie de dire. Oui, bien sûr, les chauves-souris, par exemple.
La chauve-souris, c'est une bonne bestiole.
Bien sûr, elle va manger des insectes, etc. Les couleuvres de Montpellier, la chouette effraie. Et c'est Naturoptère, qui est un musée passionnant et interactif, et qui est basé à Sérignan-du-Comtat, dans le Vaucluse, à 10 minutes d'Orange. D'accord. Voilà, c'est là-bas que vous pourrez découvrir les bestioles.
Donc, si on a des chauves-souris et des couleuvres à la maison, on les garde, surtout.
Oui, bien sûr.
Bah, évidemment. Allez, Alain, on conclut avec notre son mystérieux de la nature du début de l'émission. On le réécoute ?
On le réécoute, oui. Alors, c'est un même son qui est multiplié parce que c'est très fugitif.
Vous avez dit que c'est un son exceptionnel.
Exceptionnel, c'est confié par le CNRS. Eh bien, c'est le son d'une tortue verte. Oui, les tortues s'expriment également.
Donc une tortue de mer.
De mer, voilà, en alerte. Et cet enregistrement, c'est Damien Chevalier du CNRS qui nous l'a donné parce qu'il met au point un dispositif pour réduire les prises accidentelle de tortue dans les filets. Oui. En diffusant ce son, il espère dissuader les tortues d'approcher. D'accord. Et il souligne que si le dispositif fonctionne, ce sont des dizaines de milliers de tortues qui seront ainsi sauvées chaque année.
Alors ces tortues, on le rappelle, elles sont dans la mer et elles viennent à terre uniquement
pour pondre, donc donner la vie.
Merci Alain, à dimanche.
Bonsoir.
On refait la planète sur RTL.
Et dans quelques secondes, il sera 19h. Et à 19h, qui vient pour les infos ? Antoine Cavalier-Roux. À tout de suite.
RTL, vivre ensemble.
Renault.
2012, Renault invente la voiture électrique pour tous, Renault Zoé.
2022, Zoé vous emmène toujours plus loin, jusqu'à 395 km d'autonomie. Et avant le 31 décembre, profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique, avec jusqu'à 6000 euros de bonus écologique et 2500 euros de prime à la conversion. Renault, numéro 1 des ventes électriques en France. Voir détails et conditions sur les sites gouvernementaux dédiés, réservés aux particuliers. Étude de janvier à octobre 2022, source AAA Data. Voir Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RTL.
19h.
RTL dimanche soir.
Avec Vincent Parisot.
Et pour le journal, Antoine Cavalier-Roux. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Avec à la une ce froid qui pique, qui glace.
La vague de froid partie pour durer. Bonne affaire pour les vendeurs de vin chaud. Reportage sur le marché de Noël de Strasbourg. Dans l'actualité également, Éric Ciotti, nouveau président des Républicains, élu avec 54% des voix. Le retour de la capsule Orion sur Terre, l'épilogue de la mission Artemis 1, c'était il y a quelques minutes. Et puis, les Anglais, toujours sous le choc après son pénalty raté, le capitaine Harry Kane s'excuse.
Et puis dans un quart d'heure, justement, on va refaire le sport. Isabelle Langer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous donnez le programme ?
Nous serons à Doha avec nos envoyés spéciaux. Au programme également la victoire du Stade Toulousain au Munster en Championship de rugby, mais aussi le ski. Et puis invité exceptionnel, la championne olympique de boxe Estelle Mosley, qui combat le 22 décembre prochain à Kinshasa.
Rendez-vous dans un quart d'heure. Merci Isabelle.
RTL dimanche soir.
Je vous souhaite de nous écouter au coin de la cheminée ou tout près de votre radiateur, bien au chaud, bien emmitouflé en ce dimanche, au temps hivernal. Des températures souvent négatives ce matin. De la neige dans le nord-ouest, il fait froid, mais sur les marchés de Noël, notamment en Alsace, certains se frottent les mains, Yannick Collant.
Ah oui, dans les allées du marché de Noël de Strasbourg, ce froid est une bénédiction pour les chalets qui vendent du vin chaud. Eric, la louche à la main, n'arrête pas de remplir des gobelets.
Ça réchauffe les doigts, ça réchauffe le corps, ça réchauffe un peu tout. Jusqu'au doigt de pied. En pourcentage, je peux peut-être vous dire, on fait 15-20% de plus quand il fait bien froid. Ouais. Pour nous, c'est très bon, oui, c'est forcément. Le vin chaud, déjà, le matin à 11h, dès qu'on ouvre, ils sont là, ils font déjà une file de 5 mètres. Et l'après-midi, à partir de 16h, c'est parti.
Et oui, les touristes sont obligés de se ravitailler beaucoup plus souvent pour résister à ces températures alsaciennes auxquelles ils ne sont pas forcément habitués. Benoît est venu d'Ardèche, rencontré hier à la mi-journée, son bonnet sur la tête et un gobelet fumant à la main.
On est arrivé à 10h30 ce matin. On a déjà fait un bon tour. Et on se tient chaud avec le vin chaud, voilà. Parce qu'il fait bien froid.
C'est le premier vin chaud de la journée.
Non, c'est quand même le troisième. Ah bah oui, il faut se tenir chaud. Il n'y a pas d'alcool, c'est chauffé, donc il n'y a plus d'alcool dans le vin chaud.
Et vu les températures annoncées pour le reste de la semaine, le vin chaud risque encore de couler à flot sur les marchés de Noël alsaciens.
Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, Yannick Collant, avec modération, bien sûr. Oui,
vous avez entendu, il n'y a pas d'alcool dans le repos, donc il n'y a pas besoin de modération.
Strasbourg, où le premier RER provincial a été lancé ce matin, un réseau express régional pour augmenter le nombre de trains entre les différentes villes de la périphérie strasbourgeoise. Une idée qu'Emmanuel Macron aimerait voir reprise par 10 autres grandes villes françaises. On en sait plus sur le chèque énergie exceptionnel. Le décret du gouvernement publié aujourd'hui, en complément du chèque classique, une aide de 100 à 200 euros va être versée à la fin du mois pour payer ses factures d'électricité ou de gaz. 12 millions de foyers vont en bénéficier.
Éric Ciotti prend donc la tête des Républicains.
Le député des Alpes-Maritimes élu nouveau président des LR. Victoire au second tour de cette élection interne. Les résultats annoncés par la présidente par intérim Annie Genevard, c'était il y a une demi-heure.
Éric Ciotti a été élu président des Républicains avec 33 609 voix, soit 53,7%. Bruno Retailleau a obtenu 28 977 voix, soit 46,3%. En conséquence, Éric Ciotti est élu président des Républicains.
Éric Ciotti, élu président des LR, la participation de ce second tour s'élève à 70%. Un nouveau coup de téléphone entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Les présidents français et ukrainiens ont discuté aujourd'hui de la conférence de soutien à l'Ukraine. Elle doit avoir lieu mardi à Paris. À Bruxelles, c'est toujours la stupeur des soupçons de corruption par le Qatar. Scandale au Parlement européen. Sa vice-présidente, la grecque Eva Kaili, inculpée et écrouée pour blanchiment d'argent notamment. Trois autres personnes connaissent le même sort.
Il a passé 25 jours dans l'espace, il a même fait le tour de la Lune. Et voilà, il est de retour sur Terre, ou plutôt sur mer. A tout de suite, on va prendre des nouvelles d'Orion.
RTL dimanche soir.
En ce moment, le Gotha du foot mondial a rendez-vous au Qatar. Du 20 novembre au 18 décembre, pariez sur l'événement avec Winamax. Équipe surprise ou ultra favori, joueur star ou révélation, qui survolera la compétition et succédera à la France pour remporter le titre ultime.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 06 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RTL.
Bonjour, c'est Julien Courbet.
Ça peut vous arriver.
Il n'y a qu'une seule radio en France, et j'irais même à dire au monde, qui vous fait gagner, écoutez bien, 150 000 euros cash. Pour jouer, c'est le 32-10.
50 centimes la minute, plus près d'un appel.
Et par SMS RTL au 74 900.
75 centimes par SMS, 4 SMS maximum.
150 000 euros. La vie va changer pour vous et grâce à RTL.
Attention, événement. Le Cirque Phénix débarque à Paris avec Rhapsody, son nouveau spectacle. Au programme, 40 artistes du célèbre Zip Zap Circus de Cape Town, un orchestre philharmonique, des tubes internationaux et des numéros époustouflants à découvrir en famille. Rhapsody au Cirque Phénix, à Paris puis en tournée partout en France. Renseignements, cirquephénix.com.
On peut se chauffer au bois comme l'ont fait nos aïeux.
Plus de bois, écuyer. Oh, la froidure m'assaille.
En gaspillant du bois et de l'énergie. Ou on peut bien se chauffer au bois avec un poêle ou un insert nouvelle génération, du bois bien sec et un bon entretien.
Ah, on n'est pas bien là.
C'est 5 fois plus efficace et bien moins polluant. Alors faites des économies en adoptant les bonnes pratiques et retrouvez les aides financières à votre disposition sur bien-se-chauffer-au-bois.ademe.fr.
Ceci est un message du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et de l'ADEME. Source ADEME 2022. RTL dimanche soir
avec Vincent Parisot
et Antoine Cavalierou pour ce journal. Antoine, Orion est donc de retour parmi nous, fin de la mission Artemis 1.
Après être allé dire bonjour à la Lune, 25 jours dans l'espace au total, la capsule de la NASA vient d'amerrir dans l'océan Pacifique. L'enjeu principal, c'était de s'assurer de la résistance du bouclier thermique. Il devait supporter une véritable fournaise, 2800 degrés. Valentin Larquier, vous avez suivi cette opération forcément délicate. Vous êtes bien entouré, vous êtes à la Cité de l'espace de Toulouse.
Oui, en effet, il se dit entièrement dégoûté. Tout s'est joué sur un petit...
Exactement Antoine, et on a eu une véritable explosion de joie à 18h40 quand la capsule Orion a amerri. Une joie des experts, du public présent sur place et vécu avec Christophe Chaffardon, l'un des directeurs de la Cité de l'Espace.
Magnifique, on voit, ah bah ça y est, on vient de le voir, oui, c'est génial. On vient de voir la capsule toucher l'océan, blâme, on a vu la petite écume autour de la capsule.
Le bouclier thermique de la capsule a résisté à la chaleur et le module fabriqué par Airbus s'est parfaitement détaché. C'est un soulagement pour Véronique Bonnenave. Elle porte une robe Artemis pour l'occasion. Elle est responsable industrielle chez Airbus et il y avait des risques pour Airbus.
Les petits risques pour nous, bah, c'était surtout des problèmes de trajectoire finaux, que les derniers ajustements se passent pas bien, ou que la séparation avec le module ne marche pas. Artemis, ça reste le début d'une nouvelle ère et il y en aura d'autres, des missions Artemis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour l'instant.
Allez, Artemis 1, c'est réussi. Prochaine étape, Artemis 2 en 2024 et cette fois-ci, il y aura des astronautes à bord.
Il viendra ensuite la mission Artemis 3 en 2025 où cette fois, Orion à l'UNIRA. Merci Valentin Larquier, correspondant RTL en Occitanie.
Allez, les Bleus, après le billet acquis pour les demi-finales, repos pour les joueurs de Deschamps. Hein.
La France a désormais 3 jours pour préparer sa rencontre face au Maroc. Ce sera mercredi. Les Bleus qui reçoivent ce soir les encouragements de Karim Benzema. Allez les gars, encore 2 matchs, on y est presque, écrit le Ballon d'Or sur ses réseaux sociaux, à 2 matchs d'un doublé en Coupe du Monde.
Les Bleus qui sont concentrés sur la prochaine étape, mais alors forcément, chez nos amis anglais, c'est une toute autre ambiance.
La douche froide hein, et un Harry Kane inconsolable. Le capitaine a inscrit le premier pénalty, mais a raté le deuxième, celui qui aurait permis l'égalisation des Anglais. Marie Boueda, vous êtes à Londres pour RTL. L'attaquant a présenté ses excuses aujourd'hui.
Oui, en effet, il se dit entièrement dégoûté. Tout s'est joué sur un petit détail dont il est responsable. Ça fait mal, mais ça fait partie du sport. Une lourde responsabilité qu'il va porter longtemps avec le premier pénalty. Il a égalé le record de Wayne Rooney, 53 buts en équipe d'Angleterre. Le second aurait pu lui permettre de devenir seul le meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale. L'ancien international Martin Keown se souvient de ce moment sur la BBC.
Je l'ai regardé au moment du pénalty, j'ai vu ses yeux et je me suis dit, il va mettre une frappe puissante. C'est ce qui s'est passé et c'est parti dans le ciel. Normalement, on peut lui faire confiance dans cet exercice, mais la pression l'a rattrapé. C'était décisif et ça n'a pas marché pour nous.
Harry Kane a depuis reçu le soutien de son entraîneur, Gareth Southgate, et de ses coéquipiers. Mais une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, a déclaré l'attaquant. Ce n'est pas comme si nous avions une nouvelle chance l'année prochaine.
Marie Boueda, correspondante RTL en Angleterre. Et puis un mot de rugby. Toulouse qui réussit son entrée en Champions Cup en Coupe d'Europe. Le Stade a battu 18-13 les Irlandais du Munster. On parlait du froid en début de journal.
Orion a bien résisté à une température de 2800 degrés pour entrer dans l'atmosphère. Nous, on peut peut-être résister à un petit -3 quand même, non?
Apparemment, c'est parti pour durer, Claire.
C'est parti pour durer, mais nous aurons quand même un léger redout en milieu de semaine. En attendant, donc côté ciel, nous aurons encore un petit peu de neige demain, principalement vers la Normandie, les Hauts-de-France et la région centre, mais bon, ça sera en faible quantité. Pour le reste de la moitié nord, ça sera surtout de nombreux bancs de brouillard givrants, donc faites attention si vous êtes sur la route, mais après leur dissipation, ça sera quand même un ciel beaucoup plus lumineux. C'est lumineux que l'on retrouvera également dans l'extrême sud-est ainsi qu'en Corse. En revanche, eh bien, le temps va rapidement se dégrader par le sud-ouest avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, donnant non seulement des pluies continues, mais aussi donc de la neige à basse altitude sur le massif central. Et cette neige pourrait gagner en soirée, voire dans le courant de la nuit, le Languedoc-Roussillon, également la vallée du Rhône, mais cela reste à confirmer. Pour les températures, vous l'avez très bien dit, des gelées à nouveau généralisées, comprises entre moins 6 à 0 degrés. Nous pourrions même avoir jusqu'à moins 9 degrés dans le nord-est, et donc dans l'après-midi, un thermomètre qui peine à monter, de moins 1 à 2 degrés dans l'est, 2 à 6 degrés ailleurs, et tout de même des températures bien positives en Méditerranée, comprise entre 9 et 13 degrés.
Donc pas de neige a priori en Île-de-France.
Nous pourrions avoir quelques flocons, c'est pas exclure. Hein.
Faut faire très attention parce qu'en Île-de-France, quelques flocons et
c'est parti.
Et tout est paralysé. Donc on va être vigilant.
Vous venez de Marseille, Vincent ?
Oui, effectivement. Merci beaucoup Isabelle Langer, on vous passe le relais parce que vous avez du sport à refaire maintenant.
Du sport à refaire effectivement, on refait le sport, beaucoup de football. Est-ce que France-Angleterre est l'un des plus grands matchs de l'équipe de France ?
C'était fort.
C'était fort, on va en parler avec Philippe Sanfourche, l'un de nos envoyés spéciaux. On parlera bien sûr du Maroc avec Hugo Hamelin qui a suivi cette belle victoire des Marocains sur le Portugal. Et puis on parlera également de ski avec le nouveau DTN du ski français et de boxe avec Estelle Mosselin, notre championne olympique.
Belle soirée avec RTL.
RTL.